CDI Podcast.
Entrepreneurs de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Entrepreneurs de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste chez CDI Média, et pour m'accompagner, l'auteur du livre Entrepreneurs de légende, mais aussi chef économiste chez Asterès, c'est Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors aujourd'hui, Sylvain, nous allons parler non pas d'un entrepreneur, mais on va dresser le portrait d'une famille d'entrepreneurs. Car ce n'est pas un seul et unique prénom, mais bien toute une lignée qui est à l'origine de la réussite de la société qui porte le nom de la famille Schneider. Alors je ne sais pas si on dit Schneider ou Schneider, on va dire Schneider, mais peut-être qu'on écorche le nom. Alors on va découvrir l'histoire de cette famille qui ont réussi à inscrire le nom de la ville du Creusot en Saône-et-Loire sur la carte mondiale de l'acier dans le 19e siècle.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, l'origine de la famille Schneider est à chercher du côté de la Lorraine dans le 17e siècle.
Oui, alors quand on remonte l'arbre généalogique un peu aussi loin qu'on peut, on arrive effectivement à Balthazar Schneider, ou Schneider, effectivement, il y a plusieurs prononciations, donc fin 17e siècle, qui est un paysan assez modeste en Lorraine, du côté de Onskirch, mais là je prononce sûrement mal aussi.
On arrivera à dire aucun nom.
Voilà. Et donc, au début, il n'y a vraiment rien à voir avec l'acier ou l'industrie même. C'est une famille de paysans. Et donc, ces enfants, tout au long ensuite du XVIIIe siècle, vont s'enrichir petit à petit, notamment avec des mariages. Bon, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, on essaie de se marier avec quelqu'un d'une famille qui possède un peu plus de terre pour agrandir le précaré, disons. Et donc, la famille devient une famille de paysans aisés, de propriétaires terriens. Certains membres de la famille font un petit peu de politique, donc ça devient un petit peu une certaine aisance financière, mais c'est toujours une famille d'agriculteurs. On est encore très loin de l'industrie.
Le premier entrepreneur de la famille, c'est Jean-Pierre Schneider.
Voilà, donc c'est un entrepreneur, mais ça reste un entrepreneur dans l'agriculture.
D'accord.
Donc il a une logique, il est ambitieux. La famille se caractérise, tous les membres de la famille se caractérisent par une volonté de réussir dans les affaires, dans la politique, de s'élever socialement. Donc il a une logique d'entrepreneur au sens où il va grandir sa ferme, il essaie de réseauter, comme on dirait aujourd'hui, de s'introduire dans les milieux politiques pour essayer de pousser sa carrière. Donc une logique entrepreneuriale et de croissance. Mais toujours dans le domaine de l'agriculture. Son fils, pareil, donc toujours cette logique entrepreneuriale, cette logique de croissance. Lui, il va aller dans une branche un peu spécifique de l'agriculture. Il va transformer les grains pour faire de l'huile. Il va devenir maître huilier. À l'époque, l'économie est découpée en corporations pour exercer un métier. C'est pas un peu comme aujourd'hui. On arrive, on dit tiens, j'ouvre mon entreprise. Il y a des corporations qui verrouillent des métiers, donc il faut payer des droits, il faut se faire introduire. Donc lui, il parvient à devenir maître huilier, donc en plus de l'agriculture, il fait un petit peu d'huile, mais encore rien à voir avec l'industrie lourde. Et son fils, donc là on est plutôt fin 18e siècle, on commence à approcher le 19e, toujours dans cette logique entrepreneuriale de croissance, d'enrichissement, seulement que lui, ça ne va pas marcher.
Son fils, c'est Antoine.
Voilà, Antoine. Donc, on n'a pas égrené tous les prénoms.
Il y a eu Jean-Jacques et
beaucoup,
tout.
Là, on est sur Antoine, donc fin 18e siècle, qui lui est, voilà, comme son père, son grand-père, ambitieux, il veut réussir, il veut gagner de l'argent, il spécule, il prend un peu des risques. Et peut-être un peu trop, puisque en fait, il va dilapider une bonne partie du capital familial. Il est bonapartiste, virulent, et au moment, début 19e, au moment de la chute de l'Empire, politiquement et en termes de réseau, c'est un peu plus compliqué pour lui. Et donc, en fait, alors même qu'à ce moment-là, l'industrie émerge en Angleterre, la famille Schneider, elle, tombe, alors non pas dans la pauvreté, mais dans une forme de gêne, l'aisance passée et finie.
Et ça aurait pu marquer la fin de la famille Schneider.
Voilà, ça aurait pu marquer la fin de la prospérité, en tout cas, de cette famille. Mais donc, cet Antoine Schneider, qui est un petit peu ruiné par ses mauvais choix, se dit, je vais aller à Paris. Il a deux fils, pour lesquels il a de l'ambition. On a toujours cette logique de réussite, même s'il y a eu un peu d'échec. Et donc, il part à Paris en se disant, mes enfants auront plus de capacité à faire une carrière à Paris. Donc, ses deux fils, Adolphe et Eugène, dont on va reparler.
Ils quittent donc la Lorraine.
Et donc, au début du 19e, la famille quitte la Lorraine, s'installe à Paris. Et les deux enfants Schneider, donc Adolphe et Eugène, vont réussir à lancer leur carrière grâce à un banquier nommé François Sellière, qui est une connaissance de la famille, en fait, hein, parce que la famille a perdu beaucoup d'argent, mais a encore des réseaux. Hein, c'est toute la force de ces grandes familles qui tissent des réseaux sur plusieurs générations. Donc, ils connaissent le banquier François Sellière. Le nom de Sellière, d'ailleurs, résonne encore aujourd'hui.
Oui, il connaît encore.
Ernest-Antoine Sellière, voilà, qui est un lointain descendant de ce banquier Sellière, qui travaille notamment pour les Vindel. Les Vindel, on va en reparler, c'est une autre des grandes familles de l'industrie, de la métallurgie, qui, eux, à cette époque, sont déjà installés dans ce créneau-là. Et donc, voilà, les deux fils Schneider, sous la coupe, un peu sous l'aile de François Sellière, vont commencer à travailler dans les affaires, le commerce, la banque, le négoce. Et c'est des jeunes gens intelligents, travailleurs, ambitieux. Et donc, ils vont commencer à faire un petit peu leur place dans la vie des affaires parisiennes, disons.
Mais ils ne sont pas encore entrepreneurs.
Alors, ils ne sont pas encore entrepreneurs et ils ne sont pas encore dans l'industrie lourde, ni même dans la métallurgie. En fait, c'est donc dans cette banque hein, où ils travaillent, la banque Sellière, qui avait racheté une forge dans les Ardennes et qui cherchait un directeur pour cette forge. Et donc, ils vont proposer à Eugène Schneider, qui avait déjà dirigé quelques petites entreprises pour le compte de la banque, de devenir directeur de cette forge. Donc, il ne connaît rien au secteur. Il apprend un peu sur le tas avec des cours du soir. Donc il
sur Internet.
Voilà, sur l'Internet de l'époque. Et il se forme un petit peu comme il peut. Et il met un pied dans le monde de la forge, dans le monde naissant, de cette industrialisation naissante. Et il dirige cette forge. Et évidemment, c'est... Alors, il est toujours très, très lié avec son frère. Et c'est des deux frères ambitieux. Et ils ne veulent pas rester salariés toute leur vie.
Bien sûr.
Ils ont des idées. Ils ont envie de reprendre leur indépendance. Et il se trouve qu'à peu près au même moment, donc là, on arrive dans les années 1830... Il y a au Creusot une petite forge qui a été développée d'abord par la famille Vindel, les Sellières connaissent bien, puisque les banquiers Sellières travaillent avec les Vindel, qui ensuite a été reprise par des investisseurs anglais, mais enfin, ça n'a jamais bien pris. Cette petite forge est allée de faillite en faillite. Et donc, les frères Schneider se disent, ben voilà, on pourrait reprendre cette installation et essayer de la moderniser, de la faire prospérer. Et donc, c'est là le début de l'aventure des Schneider au Creusot.
Donc, ils s'associent, Eugène et Adolphe, donc ils deviennent entrepreneurs, bon, évidemment sous la bonne surveillance de la famille Sellière, et ils décident donc de se lancer dans les forges au Creusot et de partager les tâches.
Voilà, donc on est en 1836, hein, donc les deux frères Eugène et Adolphe rachètent cette toute petite forge à l'époque au Creusot grâce à un financement après donc de la banque Sellière. Donc Eugène, c'est le technicien, Adolphe Schneider, c'est lui qui s'occupe plus du côté administratif et commercial. C'est assez intelligent d'ailleurs de se partager les tâches dans ce dans quoi chacun est le plus compétent. Et avec une stratégie à l'époque qui est de fabriquer des rails et des locomotives.
Donc, et c'est ce que j'allais te demander, on fabrique quoi en acier à l'époque ?
On fabrique, donc c'est le début de la révolution industrielle, c'est le début de la machine à vapeur, du chemin de fer. Et donc on fabrique le grand produit de l'époque qui est, alors les rails, ça c'est le produit un peu brut, mais le produit noble, c'est la locomotive.
Ah oui.
Et donc eux, alors bon, au début font un peu des rails parce que c'est le produit le plus simple. Et leur objectif, c'est de faire des locomotives. Et grâce à leurs compétences techniques et leur volonté d'innovation et un petit peu aussi en pompant sur les Anglais, il faut bien le dire, puisqu'à l'époque, le pays, la puissance industrielle, c'est l'Angleterre. Hein, et les deux frères et ensuite leurs descendants s'inspireront, on va dire ça comme ça, très largement des techniques anglaises et parviendront même à rattraper et à battre les Anglais. Donc au début, ils font du matériel ferroviaire et ça marche... Les tout débuts sont un petit peu poussifs parce que le train est vu avec un petit peu d'appréhension au début. On connaît trop, on se dit...
Il n'y a pas trop de lignes.
On se dit, mais si ça roule trop vite, les gens vont mourir dans ce train qui roulera trop vite. On se dit, ça va effrayer les animaux, ça va être la chute de l'agriculture et de l'élevage. Enfin, il y a un peu des craintes, mais dès que ces craintes sont levées, l'industrie ferroviaire prend son essor. Et donc, les frères Schneider, qui sont spécialisés dans le secteur, voient les commandes augmenter. Et c'est le début de la très grande croissance et de la très grande prospérité du Creusot, qui au début n'est vraiment qu'un tout petit village au fin fond du Morvan.
Et même s'ils sont du coup au fin fond de la Saône-et-Loire, ils se lancent aussi dans le monde des bateaux.
Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que...
Il n'y a pas la mer autour.
Il n'y a pas la mer. Alors, il y a la Saône, hein, ouais. Un peu plus loin. Ils fabriquent d'ailleurs une petite usine à Chalon. Donc oui, ils font du matériel ferroviaire et puis ils se diversifient. Et c'est des premiers bateaux en fer avec des coques métalliques, alors qu'avant les bateaux étaient en bois, et des bateaux à vapeur aussi. Donc il faut fabriquer toute la machinerie. Et donc oui, c'est assez improbable au vu de la localisation géographique, mais c'est aussi une entreprise qui va devenir... une référence dans la construction navale, fluviale, maritime à cette époque, avec leurs ateliers de Chalon.
Et tu l'as dit, ils misent sur l'innovation.
Alors, ils misent sur l'innovation parce qu'ils ont bien compris qu'ils ont un retard sur les Anglais, hein, qui fabriquent les meilleures locomotives. À l'époque, le symbole d'excellence, c'est les locomotives anglaises. Donc, ils ont bien compris que leur seule chance d'exister, c'était de pouvoir les concurrencer en termes de qualité. Et ils arrivent en fait assez vite, hein, dès les premières années, à faire des premières locomotives. Alors, au début, elles ne sont pas encore d'une qualité tout à fait comparable à celle des Anglaises. Elles sont un peu moins chères, ça leur permet d'exister sur le marché. Mais en fait, très vite, ils arrivent à rattraper leur retard. On l'a dit en copiant, hein, ça s'est toujours fait. Aujourd'hui, on critique les Chinois qui copient les technologies occidentales, mais... voilà, à l'époque, les Schneider copient la technologie anglaise et ils deviennent une référence en Europe dans la construction de locomotives et on l'a dit, de tout un tas de matériel métallurgique associé, même si le produit phare du Creusot au début, c'est la locomotive.
En 10 ans, ils deviennent très riches.
Ils deviennent très riches, ils ont plusieurs milliers d'ouvriers. Ils sont dans une attitude, alors, évidemment très riche, mais très paternaliste aussi. C'est pas propre à la famille, c'est vraiment propre à l'état d'esprit des industriels du 19e siècle. C'est-à-dire que d'un côté, les ouvriers de ces usines alors, travaillent dans des conditions très dures, avec des salaires très faibles au vu de nos standards d'aujourd'hui, mais dans des conditions beaucoup plus favorables que les paysans ou les employés des petits artisans de l'époque. Donc avec, ils développent des écoles, ils développent des hospices pour les vieillards. Le taux d'alphabétisation au Creusot a été longtemps plus élevé que dans le reste du pays, parce qu'il y avait les écoles Schneider, avec en contrepartie l'attente d'un dévouement total de l'ouvrier vis-à-vis de son patron. Et ça, là encore, hein, c'est pas propre à eux, mais c'est vraiment l'état d'esprit de l'époque. Les Vindel en Lorraine faisaient pareil, les Lafarge dans le ciment, et même à l'étranger. Et le patron est presque vu comme un demi-dieu, comme le père, l'ordre de famille. On a parfois sa photo qui trône au-dessus de la table à manger. Donc c'est une relation à la fois où on donne à l'ouvrier de meilleures conditions qu'il n'en aurait eu ailleurs, mais on attend en retour de lui une totale adhésion et presque soumission, on pourrait dire.
Ils sont tellement riches que leur chef comptable va en être célèbre.
Oui, alors leur chef comptable au Creusot s'appelle Henri Pognon. Donc le mot de pognon, en fait, hein, si on remonte, vient du nom du comptable de Schneider. Et la famille, à l'époque, tellement prospère, les forges tellement prospères qu'en fait, elles viennent à symboliser l'argent, ou le pognon, comme on dit désormais. Donc c'est vrai que c'est une anecdote qui reflète en fait la prospérité du Creusot. Là, on est au milieu, deuxième moitié du 19e siècle, au moment où le Creusot est à son apogée, son apogée qui va durer encore quelques dizaines d'années. Il y a une quinzaine de milliers d'ouvriers. Hein. Il faut voir qu'au début, le Creusot, c'est quelques centaines d'habitants. Donc, c'est une ville champignon qui explose, comme il y a eu Pittsburgh aux États-Unis, il y a eu d'autres villes industrielles comme ça. Donc, la ville est totalement transformée et devient le symbole de la réussite industrielle. Quand il y a des chefs d'État étrangers qui viennent en France, des fois, ils vont au Creusot voir les usines du Creusot, comme aujourd'hui, on irait voir, je ne sais pas, la Silicon Valley ou d'autres réussites économiques. Donc, c'est vrai que cette petite bourgade perdue de Saône-et-Loire devient un point important de l'industrie mondiale, en fait.
Le frère Adolphe se lance dans la politique.
Oui, alors ça aussi, c'est une grande constante des industriels de l'époque, d'avoir une carrière dans l'entreprise, mais aussi dans la politique. Alors vous me direz, aujourd'hui, il y en a aussi, hein, on pense à Berlusconi, on pense à Trump, on pense à beaucoup d'autres, mais c'était très commun d'être, en gros, industriel, et puis à côté, maire ou député, bon, ce qui impliquait parfois, probablement, certains conflits d'intérêts, mais enfin, c'est une démarche qu'on voit chez Schneider, mais qui n'est pas propre au Schneider, puisque le fait d'avoir un mandat politique, surtout pour une entreprise comme ça, qui vit pour partie de commandes, par exemple commandes publiques, avoir des leviers dans les sphères du pouvoir, ça peut être aussi très utile pour les affaires. Et puis, c'est des gens qui sont ambitieux, qui aiment le pouvoir, qui aiment, qui aiment être en haut de l'affiche. Donc, avoir aussi une carrière politique probablement satisfait aussi leur ego. Et d'ailleurs, Eugène se fait appeler Eugène Ier. Ce qui dénote une certaine fierté.
Oui, disons. C'est quasiment du roi ou du pape.
Voilà, là, c'est pratiquement un empereur ou un pape, le pape du Creusot, disons.
Donc, Adolphe devient maire du Creusot, mais il décède rapidement.
Voilà, il décède, et donc c'est Eugène qui va prendre vraiment la direction de l'entreprise.
Eugène Ier.
Voilà, qui se fait désormais appeler Eugène Ier, qui va prendre la direction de l'entreprise, qui va reprendre ensuite les mandats maire, député de son frère. Et ensuite, c'est une affaire familiale, hein, donc plus tard qui va passer l'affaire à son fils. Mais entre-temps, il y aura la guerre de 70 qui va marquer là une tournure dans la stratégie de l'entreprise.
Avant de parler de la guerre, il faut mentionner que Eugène est même devenu ministre.
Oui, alors une carrière politique, il était député, il a été ministre aussi. Là, on est sous le Second Empire, hein, sous Napoléon III. Donc, c'est une famille qui arrive, disons, au sommet du pouvoir à la fois économique, mais aussi politique. Il a ses entrées à Paris, il parle à l'empereur, il influe vraiment sur la vie économique française.
Il fait partie des fondateurs de la Société Générale.
Voilà,
alors, il devient banquier.
Il devient banquier, c'est vrai qu'il participe. Alors, il n'est pas le seul, hein, mais
oui, un des fondateurs.
Il y a tout un groupe d'entrepreneurs, d'industriels, de banquiers qui lance cette nouvelle banque, la Société Générale. Là encore, c'est une démarche qui n'est pas forcément propre au Schneider d'allier une activité industrielle avec une activité bancaire. Il y a plusieurs industriels qui ont une démarche similaire. Mais on voit que cette famille est vraiment symbolise en fait assez bien son époque.
Mais c'est pas illégal d'être en même temps le banquier et de cumuler le tout ?
Alors illégal, alors à l'époque non, puisqu'il le fait. Aujourd'hui, il y a des réglementations bancaires. Cela dit, alors je réfléchis tout haut. Est-ce qu'il y a des industriels qui possèdent des banques ? C'est vrai qu'il y en a. J'aurais peu d'exemples qui me viennent en tête.
Mais à l'époque, c'était presque courant, quoi.
À l'époque, c'était courant. C'est vrai que la réglementation bancaire s'est considérablement durcie au fil des décennies ou, disons, globalement des siècles. Mais à l'époque, non, il n'y a pas de contrainte, en tout cas légale, à cumuler une activité industrielle, une activité bancaire. D'ailleurs, les cellières hein, étaient, alors on dit banquiers, mais ils étaient aussi très proches de l'industrie puisqu'ils étaient liés au Vindel, notamment.
Donc, tu l'as dit, une date importante, 1870, et la défaite.
Voilà, donc la défaite de 70, Schneider jusque-là ne faisait pas beaucoup d'armement. Alors, un petit peu, ils avaient un peu des canons de bronze, mais ce n'était pas leur marché prioritaire. Et on se rend compte en 70 que, donc 1870, que l'armée française n'est pas au niveau face aux Allemands. C'est une défaite un petit peu cuisante. Et y a l'idée qu'il faut, alors il faut la revanche et il faut avoir des bonnes armes, notamment des bons canons, face aux Allemands. Et donc, à ce moment-là, Schneider reçoit des commandes publiques très importantes, notamment pour faire des canons beaucoup plus performants, des canons aussi performants que ceux de Krupp, le grand concurrent allemand. Et donc, à partir de 70, il y a une bascule un peu dans l'activité principale de l'entreprise, qui jusqu'à présent, son produit phare, c'était le ferroviaire. Et là, ça va devenir une entreprise spécialisée dans l'armement, donc notamment les canons, les blindages, et qui va devenir très vite très performante et qui va produire des armements de qualité comparable à ceux de Krupp en Allemagne.
Oui, avec de nouveaux concurrents, donc des Allemands et plus les Anglais.
Oui, alors à la fin du 19e siècle, la grande puissance économique et industrielle qui monte, c'est l'Allemagne. Et l'Angleterre, en fait, va être assez vite distancée. La prédominance de l'industrie anglaise, c'est jusqu'à, on va dire, la fin du 19e siècle. Et ensuite, ça va être l'industrie allemande et américaine qui vont prendre l'ascendant. Et la France, là-dessus, restera, je dirais, un peu toujours un second couteau dans l'industrie. On n'a jamais été un très grand pays d'industrie, en fait.
Eugène, en 1870, il fuit et il laisse son fils Henri un peu à la tête de l'entreprise, en intérim au début.
Voilà, donc son fils Henri, qui reprend, comme tu le dis, un petit peu l'intérim pendant la guerre, et qui ensuite, en 75, au décès d'Eugène, va prendre en tant que tel la direction de l'entreprise. Donc avec un créneau, disons que il a un peu une fibre de patron social, donc lui va plutôt mettre l'accent sur le côté, en tout cas ce qu'on retient de son action, ça va être plutôt le développement des hospices, des hôpitaux, des écoles pour les ouvriers. Donc il n'invente rien, il continue ce qu'avait fait son père, mais ça va être un petit peu sa marque. Et assez rapidement, il passe le relais à son fils Eugène, donc dit Eugène II.
Eugène le deuxième.
Eugène le deuxième. Et qui, lui, va insuffler un développement de l'entreprise au-delà du Creusot, en fait. Puisqu'au début, hein, l'entreprise est vraiment localisée au Creusot. Alors, il y a quelques ateliers à Châlons, mais c'est une implantation très, très centralisée sur cette région. Et lui, va ouvrir, donc va transférer le siège à Paris. Il va investir, par exemple, dans Skoda, la marque aujourd'hui qu'on connaît de voitures, hein, qui à l'époque faisait était plutôt dans la métallurgie, dans l'électrique. Donc le groupe va grandir géographiquement dans les produits qu'il fait. Il commence aussi à plus à s'intéresser au marché de l'électricité, donc tout ce qui est moteur électrique, câble électrique.
Un vrai virage technologique pour la société.
Voilà, donc il y a une diversification de l'entreprise. Le site industriel phare, ça reste le Creusot, mais l'entreprise devient moins liée uniquement au Creusot.
Première guerre mondiale qui arrive.
Alors, la première guerre, oui, effectivement. Alors, pour l'entreprise qui a une de ses spécialisations dans la fabrication de canons, c'est...
Une aubaine.
C'est une aubaine commerciale. Alors, après, il faut préciser qu'il y a plusieurs fils de la famille qui ont été tués ou blessés pendant la guerre. Donc, c'est une aubaine, entre guillemets, on va dire. Mais commercialement, en tout cas, effectivement, la guerre est porteuse pour les marchands de canons, hein, c'est évident.
Et c'est désastreux pour la famille.
Et c'est désastreux pour la famille et pour le reste du pays. Mais on pourrait se dire que après la guerre, avec les commandes engrangées, le dynamisme sur l'activité que ça a engendré, l'entreprise va être florissante. Et en fait, pas vraiment. Avant tout à cause de bisbilles internes. Donc entre différents fils, frères, plus personne ne s'entend, on se tire dans les pattes, ça finit en procès, etc. Donc évidemment, ça freine le développement de l'entreprise. Et je dirais que c'est ces dissensions au sein de la famille, en fait, signent non pas la mort, mais le déclin de l'entreprise. Et Schneider n'est plus, l'emblème de la réussite industrielle française comme il a pu l'être. Dans l'entre-deux-guerres, c'est Wendel, hein, qui symbolise vraiment la puissance de l'industrie lourde, de la métallurgie. Et je dirais que Schneider passe un petit peu au second plan.
Dans les années 40, évidemment, il y a la deuxième guerre qui commence.
Alors, la deuxième guerre, c'est en termes économiques, il y a moins de commandes, puisque évidemment l'armée française est battue tout de suite. Alors après, l'entreprise travaille un peu pour l'effort de guerre allemand, mais je dis un peu parce que c'est une collaboration forcée. On n'est pas dans le cas de Louis Renault qui est tout content de collaborer.
Oui. Là, c'est contre leur gré.
Voilà, ils ont pas vraiment le choix disons qu'ils ne font aucun zèle pour augmenter la production parce qu'ils savent très bien qu'ils travaillent pour l'effort de guerre allemand.
Vont même jusqu'à saboter.
Voilà, on a des cas de sabotage. Certains membres de la famille seront engagés dans la résistance ou aux côtés de De Gaulle. Donc, sans être une famille puissamment résistante, c'est une famille qui est assez, on va dire, hostile à l'occupant et qui, disons, fait tout pour traîner des pieds, pour ne pas produire pour l'occupant. Mais évidemment, les usines du Creusot sont réquisitionnées pour l'effort de guerre allemand.
À l'époque, c'est Charles Schneider qui est à la tête de l'entreprise. Et après la guerre, donc l'entreprise survit à la guerre, c'est une période de diversification pour Schneider.
Oui, et ils continuent la diversification. Alors, ils ont les aides du plan Marshall pour se relancer, pour reconstruire, puisque le Creusot avait été... Alors, tu l'avais dit, il y a eu des sabotages délibérés hein, pour éviter des bombardements anglais et américains, hein, puisqu'il y avait un peu...
Bah oui, ils bombardaient l'usine.
Voilà, ils bombardaient l'usine, donc pour éviter les bombardements, mais ils sabotaient au préalable, comme ça, il n'y avait plus besoin de bombarder, ça limitait les dégâts. Donc oui, Charles va opérer notamment une diversification dans l'atome, hein. On est au lendemain de la guerre, il y a le programme nucléaire français qui commence à être lancé, il faut fabriquer des turbines, tout un tas de tuyauteries très spécialisées. Et donc, ça va être une des diversifications de l'entreprise. D'ailleurs, le Creusot a toujours des sites de production aujourd'hui, hein, de matériel pour l'industrie nucléaire. Mais l'entreprise ne va pas rebondir, elle ne va pas redevenir le fleuron qu'elle a été, puisque Charles meurt en 1960. Il n'a pas d'héritier, en tout cas pas d'héritier garçon, puisqu'à l'époque, on est encore dans une vision où il faut un garçon pour reprendre le flambeau. Donc c'est sa femme qui reprend l'entreprise, mais sans vraiment avoir les compétences. Et arrive là-dessus la crise globale de la sidérurgie. Donc qui frappe l'ensemble des entreprises du secteur, notamment parce que les matériaux évoluent. On utilise beaucoup plus de l'aluminium, on utilise beaucoup plus des alliages, et donc l'industrie lourde, traditionnelle, au sens de la fonte, l'acier, Y a une demande qui s'étiole, il y a une concurrence asiatique aussi qui est beaucoup plus agressive. Et donc, c'est une crise globale de la sidérurgie. Et en plus, à la tête de Schneider, voilà, il manque d'un patron qui ait les épaules pour relancer l'entreprise.
Et les connaissances.
Les connaissances. Et donc, l'entreprise subit très violemment cette crise de la sidérurgie à partir de fin des années 60, années 70.
Et ça va aller jusqu'à une réelle diversification de l'entreprise dans la fin des années 90.
Oui, alors l'entreprise, bon, y a des groupes étrangers qui veulent la racheter. Ce sera interdit. Hein, Giscard d'Estaing interdira que l'entreprise passe sous pavillon étranger. Alors, il faut savoir que sa femme, Anémone, est une lointaine descendante des Schneider.
Ah oui, d'accord.
Est-ce que ça a pu jouer? Je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, c'est
intéressant. Il va protéger un peu la société.
Voilà, il va protéger. Alors après, il y a eu d'autres sociétés protégées aussi de rachats étrangers. Donc, il ne faut pas extrapoler, mais c'est vrai qu'on a ce lien familial. Donc, l'entreprise va être aidée aussi par l'État et va se diversifier principalement dans l'électricité, puisque c'était déjà une partie des productions de l'entreprise, même si ce n'était pas les produits phares. Et donc, l'entreprise va abandonner tout le côté, on va dire, métallurgie, industrie lourde, pour se développer dans tout ce qui est électrique, moteur électrique, installation électrique, jusqu'à devenir, d'ailleurs, Schneider Electric, prendra le nom en 99. Et aujourd'hui, l'entreprise qui n'a plus rien à voir avec la famille, qui est totalement... un actionnariat totalement indépendant de la famille fondatrice, aujourd'hui est connu sous le nom de Schneider Electric. Et donc on a presque oublié en fait ce lien avec le Creusot et avec la métallurgie, la sidérurgie, toute l'industrie lourde qui a été en fait son activité phare au 19e siècle.
Tu l'as dit, plus aucun lien avec la famille, et aujourd'hui plus aucun lien n'est fait entre la ville du Creusot et la multinationale. Et pourtant, Sylvain, en y réfléchissant bien, c'est peut-être presque un juste retour des choses qu'elle accueille aujourd'hui une gare qui s'appelle le Creusot TGV, qui est une gare connue, bon, pour aller en vacances, mais qui est une gare connue. Et comme on sait, comme le Creusot a œuvré pour l'industrie donc du train en France, c'est peut-être un juste retour des choses. Merci Sylvain.
Merci à toi.
Sylvain, je rappelle que cette histoire, elle est tirée de ton nouveau livre qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle « Entrepreneurs de légende français ». C'est le volume 2, c'est ton deuxième livre sur ces entrepreneurs. Il est sorti aux éditions Hendrick B. Et il est vraiment passionnant. Et je pense que le prochain épisode, on parlera encore d'un entrepreneur français, tellement qu'il y a des histoires intéressantes dedans. Merci beaucoup à vous aussi d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous partager. Ça nous fait plaisir. Vous pouvez maintenant nous retrouver aussi sur YouTube. Hein, si vous avez envie de nous écouter directement depuis YouTube, vous pouvez le faire. Faites-vous plaisir. Vous pouvez évidemment réécouter tous les autres épisodes sur toutes les plateformes audio, sur CDI Podcast. Nous, on vous dit à très bientôt. Merci.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.